Bonsoir à tous. Un point de plus à 17h, mais seulement 27,89% de participation. Ce soir encore, au second tour des élections régionales, l'abstention se confirme à un niveau record. Reportage dans un instant dans un bureau de vote de Vaux-en-Velin. Et avec Stéphane Zumsteg d'Ipsos, nous verrons que l'abstention nationale pourrait s'établir à 65,7% au second tour à 19h20 après ce journal. Édition spéciale et soirée électorale sur France Inter jusqu'à 22h avec vous, Claire Sarvajan.
Effectivement, Frédéric, rendez-vous dans 20 minutes pour cette soirée électorale avec Yael Gauz, le chef du service politique de France Inter, avec notre éditorialiste Thomas Legrand, avec Stéphane Zumsteg, dont vous parliez à l'instant, qui nous donnera tout au long de cette soirée les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Et puis bien sûr, rendez-vous avec tous les journalistes de Radio France déployés sur le terrain dans toutes les régions métropolitaines. On n'oublie pas les départementales, même si les résultats risquent, comme au premier tour, de se faire attendre. On vous donnera aussi des nouvelles des élections en Outre-mer. Pour analyser tout cela, à nos côtés, les politologues Rémi Lefebvre et Céline Braconnier, ainsi que de très nombreux invités politiques. Alors, à tout à l'heure, ce sera après votre journal, Frédéric.
À tout à l'heure, Claire. Le variant Delta gagne du terrain partout dans le monde, en France. Plusieurs médecins demandent un changement de stratégie vaccinale et pourquoi pas une vaccination obligatoire pour les soignants. Dans ce journal également, le Tour de France et Mathieu Van Der Poel s'imposent lors de la deuxième étape. Victoire et maillot jaune, l'Euro de football avec la rencontre choc des huitièmes de finale, Portugal-Belgique et puis le temps pour demain. Encore des averses et des orages. Parfois violent, 19 départements maintenus en vigilance orange. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Les Français restent indifférents aux élections, comme dimanche dernier. Un léger mieux pourtant à 17h, mais seulement 27,89% de participation contre 26,72% à la même heure au premier tour des régionales et départementales. Un taux de participation quasiment identique et une abstention du premier tour qui se confirme à un niveau record. Dans certaines villes, on est encore à la recherche des électeurs comme à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, un bastion de l'abstention. La deuxième ville de France où l'on a le moins voté dimanche dernier et on s'achemine aujourd'hui vers le même scénario. Reportage Christophe Vincent.
À l'hôtel de ville, on peut rester 20 minutes sans voir un électeur. Heureusement, les assesseurs et les isoloirs prouvent que le bureau est ouvert. Son président, Stéphane Gomez.
Il y a une population qui n'a pas forcément toujours les codes pour voter, les codes de la citoyenneté, ou qui ne comprend pas l'intérêt de l'action publique et qui du coup ne se mobilise pas pour les élections quelles qu'elles soient, à Vaux-en-Velin, mais globalement dans toutes les communes populaires.
Les Vaudais boudent les urnes, comme d'habitude, ce que regrettent deux jeunes qui votent, Shafik et Karine.
On a eu la chance de faire des études et d'avoir eu vraiment des cours d'histoire et d'éducation civique dessus. Donc si on ne vote pas, ben après, on n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'on n'a pas fait son devoir citoyen. Mais on peut comprendre quand même ceux qui ne votent pas.
J'essaie de voter à chaque élection. C'est, je pense, l'éducation. Je ne vote pas avec un enthousiasme fou, pas du tout, mais je me déplace quand même pour voter. Je trouve que c'est important.
Vous savez que Vaux-en-Velin vote très peu, c'est la ville de France qui vote le moins.
Ça m'étonne pas, et en plus de ça, il y a déjà très peu d'inscrits de base. J'ai l'impression que les résultats, au final, ne représentent rien. Ça n'a plus aucun sens, en fait, comme résultat.
Ce soir encore, seulement 1200 électeurs auront voté sur 47 000 habitants. Vaux-en-Velin, Christophe Vincent, France Inter.
Avec nous en studio, Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Ipsos Soprasteria, notre partenaire donc pour la soirée électorale à suivre. Après ce journal avec Claire Sarvajan, Stéphane Zumsteg, la participation reste particulièrement faible. Pourtant, tous les partis entre les deux tours avaient encouragé les Français à aller voter et ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi, c'est bien la preuve que les Français n'écoutent pas, ou en tout cas n'écoutent plus les consignes des partis politiques. Ça vient à nouveau souligner la défiance que suscite le personnel politique en France. Alors les raisons de cette abstention, elles sont connues, on les avait déjà mesurées évidemment lors du premier tour. Des raisons conjoncturelles, on est en sortie de pandémie, les Français ont clairement la tête ailleurs, mais il y a aussi des raisons structurelles plus préoccupantes, dans le sens où on ne va pas voter pour manifester sa défiance aussi à l'égard des hommes et des femmes politiques. On ne vote pas à des élections qu'on juge secondaires, parce que les têtes de liste sont inconnues, les programmes ne sont pas connus, et surtout les champs de compétences des régions ne sont pas connues. Donc à partir de là, pourquoi aller voter à une élection qui n'aura aucune incidence sur la vie quotidienne de sa famille? En gros, c'est ça les principaux arguments qui sont avancés.
Et selon vos estimations, au niveau national, l'abstention devrait s'établir à 65,7% au second tour.
Oui, c'est quasiment le même niveau à 1% près que le niveau record observé dimanche dernier. Et c'est encore plus spectaculaire, hein, ce chiffre de second tour, parce que généralement, on assiste quand même à un regain de participation dans l'entre-deux-tours. Le second tour, c'est la finale. On a envie de voter pour la liste ou pour le candidat qui va gagner. À titre d'exemple, en 2015, la participation avait progressé de 8 points dans l'entre-deux-tours. Là, vous le voyez, elle ne progresse que d'un point. C'est encore plus grave, quelque part, que ce qu'on avait vu dimanche dernier. Ça veut aussi dire quelque chose, c'est que cette abstention, elle est totalement assumée. Elle ne suscite aucun regret. Ils ne sont pas allés voter au premier tour, ils ne voteront pas au second tour. On n'est pas loin d'une abstention militante.
Une abstention assumée, dites-vous. Certaines régions, et notamment une région, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a plus voté que dimanche dernier. En revanche, l'abstention reste très élevée ailleurs et particulièrement en Île-de-France.
Elle est élevée partout, dans toutes les régions. Il y a, avec une moyenne de 1% au niveau national, ça bouge très peu dans 12 régions. Ça bouge effectivement dans l'une de ces régions, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une participation en hausse de 4 points. Il est trop tôt pour dire, et surtout on n'a pas le droit pour dire à qui elle va profiter, évidemment.
Il faut attendre 20 heures.
Mais c'est, là encore, ce n'est qu'une petite mobilisation supplémentaire. On avait assisté à bien plus en 2015 dans cette région.
Stéphane Zumsteg d'Ipsos, merci. On vous retrouve bien sûr après ce journal pour notre soirée spéciale avec Claire et avec à 20h donc les premières estimations région par région. Paris et l'Île-de-France prennent toujours un peu plus de temps. Les premières estimations pour Paris et l'Île-de-France pas avant 21h15. Le variant Delta au centre des inquiétudes, quand va-t-il déferler en France, de cluster en cluster, de pays en pays? Ce variant gagne du terrain un peu partout dans le monde. En France, dans les Landes, le variant Delta est majoritaire. Il représente 70% des contaminations. Des cas sont également signalés en Île-de-France, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, au point que selon des scientifiques, le variant Delta pourrait devenir majoritaire en France dès la fin du mois d'août. Seule protection efficace, seul bouclier contre ce variant, la vaccination, une vaccination qui marque le pas. Il faut changer, selon plusieurs médecins, notre stratégie vaccinale pour convaincre les jeunes et peut-être aussi, pourquoi pas, rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, Véronique Julia.
Le fameux plafond de verre, ce pourcentage de vaccinés qu'il est difficile de dépasser, il est significatif d'abord chez les soignants. L'infectiologue Gilles Pialoux le constate avec effroi à l'hôpital public.
Chez nous, les courbes de vaccination chez les soignants, je parle des infirmières et des aides-soignants, on est avec un 50% qui plafonne depuis des semaines et des semaines. C'est un scandale.
À ce train-là, les variants vont aller plus vite que la vaccination. Alors la pédagogie, c'est bien, mais a-t-on vraiment le temps d'en faire? Pour Gilles Pialoux, si on veut aller vite, on va avoir du mal à éviter l'obligation vaccinale pour ces soignants récalcitrants.
À mon avis, on n'arrivera pas sans une contrainte et une obligation vaccinale, en tout cas pour certaines populations, soit les plus exposées, soit surtout les plus exposantes. Je pense aux soignants, les enseignants peut-être aussi.
Quant aux jeunes, après tant de mois difficiles et alors qu'arrivent les vacances, comment les convaincre qu'il faut se faire vacciner pour une maladie qui finalement ne les met pas eux-mêmes beaucoup en danger? Comment leur dire que dans leur cas, c'est d'abord un geste altruiste, qu'il faut faire le plus vite possible pour la communauté? Il leur faut des modèles, des influenceurs.
C'est pas en faisant des campagnes juste avant le 20h qu'on y arrivera. C'est en allant sur les applications, sur TikTok, sur Insta, c'est pas par la peur qu'on va y arriver. C'est par l'image, sur des images emblématiques de jeunes qui vont emmener les autres sur les réseaux sociaux à se faire vacciner.
Alors c'est vrai, vu le nombre de personnes déjà vaccinées en France, une quatrième vague, si elle arrive, ne serait peut-être pas aussi haute que les trois premières. Peut-être, mais pas si sûr, car tant que le virus circule, insiste Gilles Pialoux, personne n'est à l'abri d'un nouveau variant qui pourrait être plus redoutable encore que les précédents.
Véronique Julia, à l'étranger, la Russie est particulièrement frappée par ce variant Delta. Moscou enregistre même un terrible record de décès quotidiens, 144 morts en 24 heures. C'est le pire bilan à Moscou depuis le début de la pandémie. Sur place, Claude Brouillot.
Même si les chiffres sont sans doute en deçà de la réalité, puisque les autorités sanitaires russes ne comptabilisent pas parmi les victimes du coronavirus les patients qui souffraient de comorbidité, la recrudescence de la pandémie indique aujourd'hui, alternativement pour Moscou et Saint-Pétersbourg, des bilans jamais atteints depuis mars 2020. Dans la capitale russe, le variant Delta continue de gagner du terrain, alors que deux tiers déjà des 20 000 lits réservés aux malades infectés sont occupés. Alors que Saint-Pétersbourg bat elle aussi de tristes records de décès dus à la pandémie, à 5 jours d'accueillir un quart de finale de l'Euro de football auquel pourrait participer la France en cas de victoire demain sur la Suisse. Et même en rendant la vaccination obligatoire comme décidé il y a 2 semaines, dans les principaux secteurs de l'économie comme les services, les transports ou le commerce, il faudra au minimum 1 mois et demi aux autorités russes avant d'espérer une amélioration de la situation. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et comme la Russie, de plus en plus de pays sont touchés par ce variant Delta, la propagation du virus a conduit ces dernières heures plusieurs États à adopter des mesures de plus en plus contraignantes. Olivier Poujade.
C'est une reprise de l'épidémie à l'échelle mondiale qui est en jeu. Agir vite pour contrer la propagation rapide du variant Delta, c'est ce que préconisent les scientifiques et les autorités sanitaires comme celle du Bangladesh qui juge dangereuse et alarmante la hausse des cas de contamination. À partir de demain, les populations seront soumises à un confinement strict. Même décision pour les habitants de Sydney, contraints à rester chez eux pendant 15 jours. La bulle aérienne qui permettait de circuler entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sans obligation de quarantaine vient d'être suspendue. Fermeture des chantiers et des restaurants en Thaïlande, à quelques jours seulement de la réouverture de l'île de Phuket aux touristes vaccinés. Enfin, en Europe, la propagation de ce variant au Portugal semble compromettre l'ouverture de la saison estivale. Le Delta y circule désormais majoritairement avec 51% des cas comptabilisés, statistiques qui s'élèvent même à plus de 70% dans la région de Lisbonne, où des jauges ont été rétablies dans les restaurants et les commerces. Les déplacements à l'intérieur du pays restent toujours très contrôlés.
Et puis l'université d'Oxford annonce avoir commencé à injecter à des volontaires un vaccin mis au point avec AstraZeneca contre le variant Beta, le variant sud-africain du coronavirus, dans le cadre d'essais cliniques pour mesurer son efficacité. À Miami, en Floride, les secours poursuivent leurs recherches après l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 12 étages. Le bilan de plus de 3 jours après la catastrophe est de 9 morts et de plus de 150 personnes qui sont toujours portés disparus. Les secours en Floride ont reçu aujourd'hui le renfort de sauveteurs israéliens et mexicains dans cette course contre la montre pour retrouver des survivants. On ignore toujours les raisons de la catastrophe, mais sur place, les proches des victimes demandent des explications et la colère gronde près des décombres de l'immeuble. Loïc Loury à Miami.
Our top priority continues to be search and rescue.
Chercher et secourir, selon l'expression consacrée, priorité numéro un, disait hier la maire du comté. Les efforts des équipes mobilisées sur place, pourtant, n'ont été que peu récompensés jusque-là. À peine 9 morts identifiés et près de 150 personnes toujours portées disparues. Cette femme, dont la fille de 26 ans en fait partie, a exprimé sa colère dans une vidéo.
C'est impossible qu'en 4 jours, personne n'en soit sorti, mort ou vivant. Et ne me parlez pas des deux corps. Oui, je suis au courant, mais ce n'est pas assez. Imaginez que ce soit votre enfant piégé là-dedans.
Dans ce chaos de gravats et de métal, les recherches, encore compliquées hier par un incendie, progressent lentement malgré un déploiement massif de secouristes. Impossible d'aller plus vite, affirment les autorités, sous peine de mettre en danger les équipes qui se relayent dans les décombres. Alors, chacun y va de son commentaire, comme Douglas qui observe la scène de très loin. Je crois qu'ils ont besoin de plus de grosses machines. Je ne vois que 2 engins de chantier. Il en faudrait sans doute 20 et pas juste 2. Comme beaucoup d'autres, il estime qu'il faudrait désormais un miracle pour voir un ou plusieurs survivants tirer des ruines. Miami, Loïc Loury, France Inter.
Le Tour de France avec un peloton un peu groggy ce matin au départ de la deuxième étape après les 2 énormes chutes collectives de la veille. Mais victoire cet après-midi à Mur de Bretagne de Mathieu Van Der Poel qui chippe le maillot jaune de leader à Julien Alaphilippe pour 8 secondes. En direct sur la ligne d'arrivée, on retrouve Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Frédéric.
Une étape plus calme aujourd'hui. Victoire donc et maillot jaune pour Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor qui a gagné un surnom dans le peloton. Fanny, on l'appelle Van Der Poel Idor.
Oui. Écoutez cette ambiance à l'arrivée. Effectivement, Frédéric, quel début de tour. On en a encore des frissons. On avait eu, souvenez-vous, l'émotion hier de Julien Alaphilippe pour une victoire dédiée à son bébé Nino. Et on a ce soir le doigt levé effectivement vers le ciel de Mathieu Van Der Poel, superbe vainqueur en solitaire au sommet de Mur de Bretagne. Maillot jaune pour son premier tour. Les yeux rougis en pensant en effet à celui qu'il appelle papy Raymond Poulidor.
Ouais, c'est incroyable, c'est mon premier tour, déjà la deuxième étape. J'ai réussi à gagner et à prendre le maillot en plus, c'est incroyable.
Vous avez les yeux tout rouges, quelle émotion pour vous.
Ouais, quand il aurait été ici, il faisait toujours le podium, donc ça aurait été la photo de ma vie, moi, donc Jean et lui avec moi.
Poulidor, hein, qui n'a jamais porté le maillot jaune en 14 participations et qui, après sa carrière, était toujours présent sur le podium jusqu'à sa mort il y a 2 ans pour célébrer les champions. Une histoire pleine de symboles, hein, donc souligne Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R, heureux comme un gamin d'avoir pu assister à l'avènement d'un tel champion.
Effectivement, il y a beaucoup d'émotions et je pense que ça va ravir le public hollandais et le public français. C'est clair que c'est une histoire fantastique. Il a fait acte de son panache aujourd'hui sur les routes du Tour. Beaucoup de symboles, effectivement. Et...
Quant à Julien Alaphilippe, hein, en jaune hier et que l'on pensait voir enchaîner ce soir, eh bien, il se classe finalement 5e, mais beau joueur.
On se tire la bourre, hein, toute l'année, mais je pense qu'on s'apprécie. Et en plus, voilà, il écrit l'histoire avec son grand-père, qui a aussi été un des grands acteurs du cyclisme. Et premier Tour de France, porter le maillot jaune, c'est super pour lui.
Raymond Poulidor, grand absent du jour, hein, mais omniprésent dans les cœurs. Et c'est aussi ce respect, hein, entre coureurs de panache, entre Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, qui émeut, hein, ce soir tous les amoureux de vélo, Frédéric.
Fanny Le Chevestrier avec Lucien Lefebvre. Merci à vous deux. L'Euro de football avec ce soir le choc des 8e de finale. Belgique-Portugal à Séville en Espagne à partir de 21h. Une rencontre de très haut niveau entre le premier du groupe B, la Belgique, le troisième du groupe F, le Portugal. Un Portugal emmené par Cristiano Ronaldo, le joueur star qui attire tous les regards lorsqu'il est sur le terrain et également le joueur de tous les records, Guillaume Batin.
Quand il arrêtera sa carrière, Ronaldo aura tous les arguments pour dire qu'il est le meilleur footballeur de l'histoire. À 36 ans, CR7 fait tomber les records, les uns après les autres. L'homme aux 5 ballons d'or a marqué 109 buts en sélection, autant que l'Iranien Ali Daei, participé et marqué dans 5 euros, gagné 5 Ligues des Champions dont il est le meilleur buteur, 7 championnats dans 3 pays différents, des récompenses par dizaines. Mais au-delà des chiffres, Ronaldo est d'une régularité affolante, jamais blessé, le corps toujours affûté, travailleur acharné, mais aussi meneur d'hommes et influenceur, première personnalité à franchir la barre des 250 millions d'abonnés sur Instagram, son aura dépasse le monde du ballon, quand d'un simple geste il fait écrouler le cours de Coca-Cola, sponsor de l'Euro. Lors d'une conférence de presse d'après-match, il refuse que son image soit associée à la marque, écarte la bouteille. Résultat, la valeur de Coca perd plusieurs milliards de dollars.
Guillaume Batin, merci. Et dans l'autre 8e de finale du jour, Pays-Bas et République tchèque, il y a après une heure de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. L'équipe de France, elle, de son côté, jouera son 8e de finale demain, lundi, face à la Suisse, à Bucarest, en Roumanie. Une équipe de France touchée par les pépins physiques, mais les Bleus restent invaincus. À 24 heures de la rencontre, la tension monte, notamment dans les médias suisses. L'équipe de France est plus largement, les Français agaceraient les Suisses, ils nous trouveraient prétentieux. Pascal, supporter de l'équipe suisse, dépasse cet agacement vis-à-vis des Bleus, qui sont pour lui les favoris. Pascal, avec Hervé Blanchard de France Bleu, Belfort-Montbéliard.
Oh ben là, les Suisses n'auront aucune chance. La France est quand même à ton dessus, hein. Contre la Suisse, je n'y crois pas.
Vous êtes Suisse, il faut y croire.
Oh, mais les miracles, hein. Ça fait un moment qu'on n'en voit plus, hein. La France a un sacré potentiel.
Est-ce que vous avez des amis français? Est-ce que ça chambre un peu?
Ah oui, j'ai des beaux frères français, voilà. Il me dit, alors les petits Suisses, on va remanger du petit Suisse, qui disait, voilà. Moi, je prends ça en rigolant, mais c'est vrai, il faut reconnaître que l'équipe de France, puis je les vois même aller en finale, moi. Pour moi, c'est l'équipe favorite, hein.
Voilà, France-Suisse, demain soir à partir de 21h à Bucarest en Roumanie. Et puis en bref, en moto, au Grand Prix des Pays-Bas. Victoire cet après-midi de Fabio Quartararo. Le pilote français sur Yamaha signe son 4e succès de la saison. Il est bien sûr premier au classement général du championnat du monde après 9 courses. Deuxième, un autre français, Joan Zarco sur Ducati. Et c'est la première fois que deux pilotes français occupent les deux premières places au classement du championnat du monde moto. Dans un instant, notre soirée électorale sur France Inter avec vous, Claire Servageant. Mais d'abord, le temps pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
La situation d'orage va rester d'actualité jusqu'en début de semaine, n'épargnant que de rares régions, en particulier la Corse et le pourtour méditerranéen. Mais ailleurs, ce soir et la nuit prochaine, le risque d'orage puissant va se manifester entre les Pyrénées, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le quart nord-est, avec souvent de fortes précipitations, voire même de la grêle, en particulier sur les départements maintenus en vigilance orange. Demain, il n'y aura pas de changement notable, avec, excepté près de la Méditerranée, un risque d'orages sur la plupart des autres régions, toujours accompagné d'averses marquées et aussi de grêles sur le flanc est, où il fera jusqu'à 31 degrés l'après-midi en Alsace et sur l'Isère, ainsi qu'en Basse-Vallée du Rhône, 32 sur la Corse, contre 18 à 20 degrés près de l'océan et sur les côtes de la Manche, et 23 en moyenne du nord au bassin parisien et du centre au sud de la Garonne.
Jean-Michel Golinski de Météo France.